Le Tocsin et un photographe basalpin pour évoquer 14-18 aux archives départementales.
1er août 1914, la population est au champ pour les moissons quand le tocsin sonne pour décréter la mobilisation de la France dans ce qui allait être la Première Guerre mondiale. L'exposition des archives départementales des Alpes de Haute-Provence à Digne-les-Bains est consacrée pendant 4 ans à l'horreur que fut la guerre des tranchées, l'apparition des batailles aériennes et à l'artillerie qui prit une place prépondérante dans ce conflit. Intarissable sur le sujet, le directeur des archives départementales, Jean-Claude Labadie, nous en parle tout en n'oubliant pas la part importante des contingents basalpins, dont un certain Désiré Sic, qui nous a laissé de nombreuses et précieuses photographies. Basalpins et Provençaux furent décimés sur le front de l'Est. Jean-Claude Labadie répond aux questions de Jean-Marc Léca.
1er août 1914, 16h, c'est le tocsin qui a résonné.
En effet, le décret donc, de mobilisation est signé peu avant 16h. À partir de cette signature, évidemment, on informe la population de la mobilisation. Et donc, on utilise le tocsin, qui est la manière la plus connue qui a traversé l'histoire. Mais on utilise en fait en réalité tous les moyens, y compris donc l'affichage, des pré-imprimés sur lesquels il n'y a plus qu'à ajouter le premier jour de la mobilisation, qui est donc le 2 août, et le lieu de la commune où cette affiche va être posée. Et puis, on utilise aussi le système des crieurs publics, hein, puisqu'il s'agit d'informer toute la population française de cette mobilisation. Il y avait évidemment de très forts risques de guerre. Néanmoins, les autorités politiques pensaient que jusqu'au dernier moment qu'il était possible de résoudre cette crise, parce qu'il y a eu déjà d'autres crises avant, en particulier entre les Français et les Allemands, et qui avaient donc trouvé une solution diplomatique. Mais l'ultimatum qui est adressé donc à la Serbie par l'Autriche entraîne la mobilisation des Serbes, qui eux-mêmes sont protégés par les Russes. On a un effet de domino et un enchaînement en fait. Et les Russes mobilisent, et puis à partir du moment où les Russes mobilisent, tout le monde commence à mobiliser, parce qu'il y a aussi l'idée à l'époque que c'est le premier qui mobilise qui gagne.
Et qui était à l'initiative de cette exposition aux archives départementales à Digne?
Alors c'est nous qui avons donc eu l'idée de créer un projet durant 4 ans, puis qui va s'étaler jusqu'en 2018. L'idée étant évidemment de montrer à la fois la guerre en général et puis évidemment de décliner cette mobilisation qui concerne donc les hommes, mais aussi l'arrière, donc les femmes, les enfants, les hommes qui restent, les vieillards, les invalides, tous ceux qui ont été réformés, etc. Et bien de montrer qu'on rentre dans une sorte d'économie de guerre et qui nous paraissait intéressant d'aborder ce sujet de manière chronologique, ce qui nous permet en fait d'aborder les choses les unes après les autres. On n'aurait pu faire qu'une année, mais à ce moment-là, on aurait eu beaucoup de sujets à traiter en même temps. Là, en étalant sur 4 ans, on pourra traiter aussi bien des sujets comme la question des étrangers dans le département, car il y a eu beaucoup d'étrangers qui ont été soit prisonniers, soit internés, soit tout simplement des travailleurs qu'on a fait venir des colonies pour remplacer les hommes partis.
4 ans, c'est très long, surtout qu'à l'époque, les conflits ne duraient pas forcément si longtemps.
Les choses ne sont pas du tout passées comme elles avaient été envisagées par les uns et par les autres. Et donc, effectivement, cette guerre a duré longtemps. Elle a duré en réalité plus que 4 ans. Il y a les 4 années de guerre, mais la plupart des soldats, en fait, ont été démobilisés seulement en 1919.
Vraiment le premier conflit mondial. Tout le monde s'y est mis petit à petit.
Oui, alors en fait, c'est un conflit mondial parce que il concerne les pays européens, mais comme les pays européens sont aussi des pays coloniaux, ils utilisent les ressources de leurs colonies, ressources matérielles et ressources humaines. Il y a beaucoup de combattants, les soldats des colonies sont très importants parce qu'ils forment des contingents de plusieurs centaines de milliers d'hommes qui vont participer à l'effort de guerre. Finalement, la référence d'avant, c'était la guerre de 1870, qui est une guerre très rapide, très courte, qui se passe essentiellement dans l'Est. Alors après, évidemment, il y a l'épisode de la Commune, mais qui est en fait un phénomène extérieur à la guerre. Et on était un peu dans ce schéma-là, en fait. Finalement, la guerre concerne d'abord les militaires. Là, on est dans une guerre qui concerne non seulement les militaires pour une durée très longue, qui concerne en fait un champ géographique très large, mais qui concerne aussi les civils. Tout le monde participe à cet effort de guerre. Et c'est la première fois qu'on mobilise autant les populations civiles de l'arrière pour gagner. Sauf que quand même, cette fois-ci, la guerre est devenue essentiellement technologique, elle mobilise beaucoup d'hommes, et que finalement, aucune armée n'arrive à faire l'avantage, et donc tout le monde s'enterre.
Et l'épisode, entre guillemets, quand les soldats français se sont fait bombarder des deux côtés, côté allemand et côté français, parce que ils rebroussaient chemin, et les généraux avaient décidé de leur tirer dessus.
Si on prend 14, en fait, les schémas qui sont envisagés ne sont pas ceux qui vont se passer en réalité. En fait, en 14, les troupes françaises s'avancent. En particulier en Lorraine, parce que beaucoup de basalpins ont participé à la bataille de Lorraine, ce qu'on appelle la bataille des frontières. Et on va très vite découvrir, enfin les soldats français vont très vite découvrir qu'en réalité la principale force de la guerre, ça va être l'artillerie et la mitrailleuse. Et donc ces soldats qui montent à l'assaut et vont se retrouver face à une situation absolument incroyable, c'est-à-dire qu'en fait en face il n'y a personne, à part des mitrailleuses qui leur tirent dessus et qui donc hachent vraiment les soldats, et des obus qui explosent partout. Le 22 août 1914, ce jour-là, les Français perdent 25 000 hommes. Et donc se retrouvent effectivement dans une situation très paradoxale, où ils sont en situation de repli, dans une sorte de débandade en fait, hein, d'une certaine manière, que tout le monde essaie de ne pas être débordé, où on a des soldats qui reculent, poussés par l'ennemi qui lui avance, et face à des états-majors qui leur demandent de se retourner et de repartir dans l'autre sens. Donc on a ces situations effectivement, qui d'ailleurs vont entraîner le limogeage de beaucoup de généraux hein, après ces batailles, la bataille des frontières, puis ensuite la Marne, et puis pour nous, pour la Lorraine, la bataille de la Meurthe, puisque c'est la ligne de défense qui a été choisie, eh bien, on a beaucoup de généraux qui vont être dégagés pour incompétence. Hein. Ces généraux n'ont pas compris que cette guerre était différente des schémas qu'on leur avait appris et qu'ils essayaient de tenir coûte que coûte.
D'où la phrase de Clémenceau, la guerre est trop sérieuse pour la confier à des militaires.
Alors ça, c'est toujours la question. Hein. Alors c'est vrai que quand on regarde un peu la manière dont les choses se passent, on voit que les niveaux des pertes en 14 sont considérables. C'est vraiment l'année où il y a les plus fortes pertes en nombre. L'année 1915 étant la plus meurtrière, mais elle s'étale sur 12 mois. Eh bien, on voit très bien la stratégie. C'est en fait sans arrêt d'amener des renforts. C'est-à-dire qu'en fait, on a des régiments qui se font décimer. Enfin, je dis décimer. Décimer, c'est 1 sur 10. C'est bien plus que ça, qui se font massacrer. Et la seule réponse de l'état-major, c'est non pas d'essayer de trouver une réponse tactique, vous voyez, militaire. C'est en fait continuer à amener des hommes. Et on a, par exemple, un des régiments où il y a beaucoup de basalpins qui combattent, qui subit des pertes considérables. Et la seule réponse, c'est d'amener des hommes. Et donc, on amène 1200 hommes, vous voyez, en août 14, pour compenser les pertes. Et ces hommes-là, évidemment, eux-mêmes vont se faire massacrer. Voilà, on est dans une sorte de mouvement, on a l'impression qu'on fournit en hommes et que c'est la seule façon de tenir.
Est-ce que, comme pour certains départements, les moins instruits allaient plus au front?
Alors, on est un département où les pertes sont évidemment considérables. On est autour de à plus de 8% de la population masculine qui a été donc tuée durant la guerre, parce qu'on est un département rural. Et comme dans ces départements ruraux, comme la Lozère, qui elle est à 11%, eh bien, les hommes ne sont pas qualifiés et donc servent essentiellement dans l'infanterie, alors que dans d'autres départements, comme les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var, on a des hommes qui ont des qualifications et donc ils sont versés dans des armes beaucoup moins dangereuses, comme l'artillerie, le génie, où là les niveaux de perte sont incomparablement inférieurs. Le soldat de 14 qui est victime de la guerre, c'est le fantassin.
Est-ce qu'il y a d'autres expositions de par la France comme celle que vous organisez ici?
Il y a, le comité du centenaire avait sollicité donc beaucoup d'institutions pour justement proposer des expositions, mais même dans le département. Alors, les services d'archives départementales elles-mêmes ont présenté présentent encore des expositions. Nous-mêmes, on accueille une exposition qui est prêtée par les archives départementales du Tarn qui concerne un basalpin, puisqu'il s'agit de Désiré Sic, hein, qui était donc un combattant originaire d'Entrevaux et qui a combattu dans le génie.
Tout à l'heure, vous aviez prêté une veste d'époque qui va aller à Nice.
Oui, alors c'est. Donc la ville de Nice va organiser donc une exposition 14 qui va commencer en septembre et le régiment de Nice, enfin l'un des régiments de Nice, c'est le 163e régiment d'infanterie. Alors il se trouve que nous avons un combattant qui s'appelait Honora, qui était un lieutenant à l'époque, lieutenant Honora, et qui a combattu donc durant la Première Guerre mondiale et dans le 163e régiment d'infanterie. Donc on a prêté ça. Ce sont des objets plutôt rares, qui sont difficiles à trouver, et donc on est tout à fait satisfait de prêter un objet qui rappelle à la fois, qui évidemment a un intérêt pour Nice, mais qui rappelle aussi que des bases alpins ont combattu dans ces régiments provençaux.